Autre sujet, puisqu'on va laisser de côté pour l'instant la SNCF qui sera en grève le week-end prochain. Hein, préparez-vous donc pour les retours de vacances, quoi. Bah, c'est les aiguilleurs. Bah, ouais, on en reparlera. Par contre, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit il y a beaucoup de sujets, mais j'aurais aimé dire un mot sur Missak Manouchian qui va rentrer au Panthéon.
Ben oui, parce que c'est la première fois que ce type de personnage rentre au Panthéon. D'abord parce que c'est un étranger. Il n'y a pas d'étranger au Panthéon. J'ai un peu vérifié. Il n'y a pas d'étranger. Ça sera la première fois qu'il y a un étranger, deux étrangers, parce qu'il y a sa femme également, et surtout un communiste.
Oui,
il rentre au Panthéon.
Tout à fait.
C'est bien la première fois, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais simplement le
saluer.
Et je pense qu'aujourd'hui, Manouchian serait très mal accueilli par certaines personnes de partis extrémistes qui vont participer.
D'autant plus, Marine Le Pen a décidé de venir. Et j'ai vu qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'était un peu tendu sur le sujet. Oui. Tu as suivi un peu aussi
Oui, j'ai suivi. Après, le président Macron a indiqué qu'il serait convenable que l'extrême droite ne vienne pas à cette manifestation, mais considère que c'est à cette extrême droite de se positionner, parce que lui, il invite toutes celles et ceux qui ont une représentation nationale, et le RN a une représentation nationale, donc c'est au RN de décider.
Il y a beaucoup de polémiques en ce moment, vous avez noté ça, sur les hommages, sur les trucs. J'ai vu que, donc, je vous l'avais noté, la présence de les filles aux obsèques de Robert Badinter, qui a choqué. On n'a pas compris aussi pourquoi les filles étaient à l'hommage aux victimes israéliennes, ensuite, à ce qui s'est passé avec le Hamas. Donc voilà, maintenant, à chaque fois qu'il y a donc quelque chose,
Après, moi, il me semble que l'action mémorielle a toujours été un instrument politique pour le président en place, quel qu'il soit. C'est une façon de contribuer au récit long de son histoire présidentielle. Et donc, Emmanuel Macron c'est là où on est un peu en déconnexion avec les réalités de terrain qu'on vit dans mon département. Il essaie d'inscrire son action avec des éléments symboliques. En d'autres temps, c'était des monuments.
Une pyramide.
Une pyramide, oui, bien sûr. Mais,
une grande arche.
Un musée d'Orsay.
Une bibliothèque.
Le Branly,
etc. Parce que il y a quand même ce petit goût post-royaliste qui reste dans ce pays, où y a une sorte de culpabilité d'ambiance de la République qui ne s'est jamais remis complètement. Du fait qu'elle a coupé la tête à son roi. Et il me semble qu'il y a quelque chose de psychanalytique là, à travailler. Et donc il y a un récit. Et donc,
en tous les cas.
Ceci étant dit, ça n'enlève à rien le fait que Manouchian, même s'il y a beaucoup de débats, il y a un récit d'une historienne particulièrement puissant sur l'histoire de cette affiche, qui est
l'affiche rouge.
Propagande et. Il y a trois personnes qui n'avaient rien à y faire dessus, qui s'y retrouvent, etc. Il y a tout un travail.
Il y a toujours des trucs.
Mais je termine juste. Badinter, c'était évidemment. J'étais à l'hommage d'ailleurs, en tant que membre du bureau du Sénat. Il méritait un hommage national. Après, je pense que il ne faut pas abuser des hommages nationaux comme des médailles d'ailleurs, parce que je trouve que ça travestit un peu.
Disons que ça fait perdre la valeur.
Ça travestit un peu.
Rappeler l'histoire.
La gloire que l'on doit aux grands hommes, et tout le monde n'est pas grand homme ou grande femme. Et qu'il faut aussi, je pense, avoir toujours, c'est un peu mon leitmotiv de ce soir, c'est un peu mes obsessions personnelles en ce moment, avoir ce souci du temps long en permanence. Je pense que dans ce souci du temps long, clairement, les deux personnes dont on vient de parler, le couple Manouchian et ses résistants autour, parce qu'il y en a deux qui rentrent, mais il n'était pas seul, il y avait une quarantaine, ou une vingtaine, ou 25. Il y a le Badinter qui rejoint un peu cette histoire, quand on voit effectivement... Que ses parents venaient de Moldavie, que son père a été pris par Barbie et a été déporté et mort déporté. Badinter est quand même l'homme qui a contribué dans un heureux sort de la République, toujours amusant parce qu'il est devenu ministre de la Justice sous Mitterrand et a porté la voix de l'abolition de la torture, de la peine de mort, pardonnez-moi, alors que normalement ça aurait dû être Maurice Faure. Qui était ministre, le premier ministre de la justice de François Mitterrand en 1981, qui a fait à peine 6 mois parce que il avait ressenti en tant que radical de la province comme un sentiment, un peu trop radical dans les équipes qui l'entouraient, il est préféré se détacher un peu. C'est comme ça que Badinter est devenu ministre de la Justice et est devenu l'incarnation finalement de l'abolition de la peine de mort, un peu par accident, parce que c'est un peu.
Oui, mais il apporte
une version. Je dis ça avec un peu d'humour et de légèreté, vous me le pardonnerez. C'est un peu comme un 1er avril 2004 ici. C'est parce que Loulou n'avait pas voulu. Et donc là, c'est parce qu'on
s'en rappelle. Mais alors,
parce que M. Faure n'avait pas voulu, il s'est retrouvé en première ligne.
C'est un peu le même combat que Simone Veil.
Comme disait.
Comme Giscard.
Absolument.
Ouais. Mais comme disait Coluche, il a été premier dans un concours de circonstances.
Ouais. Ouais.
C'est quand même. Là, excuse-moi, Jean-Claude, on est en train quand même de fermer. C'est là où, sur le temps long, c'est toujours intéressant. On est en train un peu de fermer quand même de manière active avec des vivants, aujourd'hui inhumés, pour Badinter. Toute la période qui a fait notre jeunesse à nous. C'est-à-dire, nous, on a connu des gens qui sortaient de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Lesbrosse, Julian, qui étaient des grands, et bien d'autres, dans les Hautes-Alpes, l'abbé Richard Duchambleau, qui a été juste parmi les justes, tous des gens qui ont un peu alimenté notre récit d'enfant quand on était enfant. Et c'est un peu cette époque-là qui disparaît un peu avec eux. Et c'est important qu'on les inscrive dans le temps.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que Badinter n'a pas volé, quand même.
Ah non, je n'ai pas dit ça.
Il n'a pas volé quoi que ce soit, puisqu'il a été un des premiers à se battre contre la peine de mort,
à chaque fois qu'il
défendait des accusés. Ça a commencé en 74. Il était le premier à monter au créneau, à tout faire pour leur éviter la guillotine à l'époque.
Oui, puis
il est emblématique de ça aussi. Il l'incarnait bien, en fait.
C'était l'incarnation, comme tu dis.
Bien sûr.
Mais sur le temps long. Je voudrais dire deux choses sur le temps long. Hier soir, il y avait une émission sur une chaîne publique, sur la RAF du Veldiv.
Ouais.
Et je pense que ça fait du bien, surtout à nous, mais aussi à notre jeunesse. Je ne sais pas s'ils ont regardé.
c'est
quand même hyper important, ce type d'émission, parce que ce qu'on ressent... Moi, j'ai ressenti à la fin de l'émission une honte pour notre pays. Parce que, en fait, la RAF... C'est pas les nazis qui l'ont fait.
Ah ben non,
c'est la police. La police municipale qui faisait le salut hitlérien. Je pense que ça, il faut quand même l'expliquer pour pas qu'on revienne dans ces travers-là. Et deuxième chose, c'est plus terre à terre, samedi prochain, il y a donc une... Je sais pas, tu as dû être invité, je pense.
Il y a une soirée Moon.
Non, plus. Sur l'affaire sur Manouchian, il y a une initiative qui est organisée à Gap. Devant le monument où nous étions ensemble, place Saint-Arnoux, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y a aussi Manouchian, c'était un résistant, un poète, mais c'était aussi, il avait subi l'armée, tout ce qui s'est passé dans son pays, puis c'est un Arménien. Hein. Et donc, devant le monument... place Saint-Arnoux, il y a un rassemblement qui est prévu.
Parce qu'on parle Manouchian, pour faire le lien avec la génération d'aujourd'hui, tout ça est venu aussi de Léo Ferré et de son interprétation de l'affiche rouge sur la base du poème d'Aragon. Mais j'aime beaucoup la version de Feu Chatterton, qui est un groupe que j'aime beaucoup et je trouve qu'il donne une profondeur et une modernisation du message qui peut parler aux plus jeunes.
Absolument.
Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen d'ancrer, de cranter cette histoire-là aux jeunes pour que derrière ils s'en emparent et qu'on évite de retomber dans les mêmes travers. On commence à parler un peu comme des gens avec de l'âge, mais je comprends mieux les discours de mes parents quand ils me parlaient de la même manière sur leur récit. Et je crois que c'est aussi ça, le fait de prendre un peu d'âge et de l'expérience de la vie.
Et rappeler la position de Chirac. Tout le monde sait que je ne suis pas un soutien à Chirac, mais il n'empêche que Chirac a eu la capacité à un moment de dire c'est l'État qui était responsable de la RAF du Veldiv. C'était pas si clair que ça au départ. Pétain, c'était là.
Il y en a d'autres qui lui ont reproché.
C'était pas clair parce qu'il faut se mettre, il faut se mettre aussi en tête qu'à la libération, il a fallu reconstruire la France avec les moyens et les édits que nous avions. Et certaines avaient été dans la résistance, d'autres avaient été entre deux, et d'autres avaient été dans d'autres marécages.
Papon et compagnie.
Et que De Gaulle a essayé de rassembler tout ça malgré tout pour que la France se reconstruise. C'était ça l'objectif, je vous le rappelle. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une crainte aussi que les Soviétiques, vous voyez comme quoi l'histoire revient, que les Soviétiques envahissent et qu'on est parti sur 30 ans de guerre froide. Donc il y avait cette responsabilité-là aussi de rassembler le pays sans pour autant détruire la véritable histoire. Et la véritable histoire, elle se construit aussi par des récits. Je reviens toujours à cette dimension-là.
C'est compliqué, ces choses-là, parce que dans la police et tout, il y a aussi des gens qui se sont élevés contre ça, mais ils ont laissé la vie. Ceux-là, tu n'en parles pas, bien souvent.
Si, hier soir, dans l'émission, ils montraient très bien.
Tu vois, les malgré eux, dans l'Alsace aussi, ils n'avaient pas trop le choix.
Navani, qui est mort dans le goulag de Sibérie, toute proportion gardée dans un contexte qui n'est pas comparable parce que c'est pas la même histoire, ça fait remonter quand même ces engagements de gens courageux. Et on le voit, moi j'ai beaucoup d'émotions, sachant qu'un homme de 47 ans, qui pouvait être un opposant de l'extérieur de la Russie en restant en Allemagne, a fait le choix de rentrer.
Pour Navalny, on le sait, en fait, il est tombé dans l'escalier pendant la promenade.
C'est puissant parce que ça interroge la profondeur de l'âme que nous avons chacun. C'est-à-dire jusqu'où on porte un engagement par rapport à des valeurs et où on met la hiérarchie des valeurs. La hiérarchie des valeurs, sans être dans le jugement, elle ne se résume pas à ce qu'on lit dans les réseaux sociaux. C'est l'engagement dans la réalité. Comme tu disais tout à l'heure, tu l'as fait avec ton point. Bruno, quand on a vécu les choses.
Bruno a raison de le rappeler. Hier soir, c'était bien traduit dans l'émission sur la RAF du Veldiv. Tu avais des policiers nationaux, des policiers municipaux qui ont sauvé des dizaines et des dizaines de juifs. Et ça a bien été rappelé, y compris dans les policiers. Il n'y avait pas que des policiers.
Il y a eu des règlements au moment du débarquement et de la libération. Il y a eu des règlements de compte dans ce corps-là. Et c'est aussi eux, ils ont été les premiers, les policiers, en se retournant, à être les premiers.
On parlait de Poutine à l'instant et on parlait de dictature tout à l'heure. Donc Alexis, donc Navalny, out, le pauvre, bien sûr. Il n'aura aucun véritable opposant, Poutine. Il y a Boris Nadejdine qui était le seul candidat opposé à l'invasion russe en Ukraine. Il a été déclaré inapte à concourir il y a quelques jours, c'était le 7 mars. Son dossier a été rejeté par la commission électorale.
C'est ballot, ça.
Ouais. C'est ballot. Alors attends, parce que...
Il a été positif aux amphétamines, non ? C'est pas ça.
Il y a l'ancien patron de la milice Wagner, vous savez, Prigojine, là. Ben, il ne pourra pas se présenter.
Il a
eu un problème mécanique en août.
Lui, il est mort.
Il a eu un problème mécanique avec son avion.
Ce qui est très intéressant dans ce que tu décris, c'est terrible. C'est la mécanique de la montée en puissance des dictatures. Ça commence de manière assez indolore. Poutine arrive avec le soutien d'Alcine, qui était, comme vous le savez, en état de santé plus que dégradé. Il sort de l'ombre, littéralement, puisque c'était un petit KGBiste de 4e catégorie. Et donc, progressivement, il y a une atteinte d'abord à l'appareil d'État, il y a la mise en place d'une police secrète, etc. Et je le dis avec solennité, ne nous croyons pas à l'abri de situations comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle je reviens, même si on était en désaccord sur les détails, sur la portée, parce qu'il y avait un peu la colère de Thierry par rapport à la mésaventure de quelqu'un de sa famille, je le comprends, et au-delà sur la question de SNCF. On n'en veut personne. Mais la mécanique de la dictature, c'est quelque chose qui ne se voit pas au quotidien.
C'est insidieux.
Et, c'est insidieux, et l'état de droit, c'est notre protection. Absolument. Maximale. Et donc, c'est la raison pour laquelle, y compris sur des décisions, notamment la loi immigration, quand le Conseil constitutionnel dit, pas sur le fond d'ailleurs, sur une vingtaine d'articles, c'est un cavalier budgétaire, ça rentre pas dans le cadre, il se prononce pas sur le fond. Je ne vois pas pourquoi des gens qui se disent républicains,
comme Wauquiez par exemple,
tu cites des noms que tu veux, attaquent le Conseil constitutionnel. C'est pas acceptable. Tout comme on n'attaque pas une décision de justice, même si parfois on considère que l'injustice est là. Parce que, autrement, on est dans une situation où c'est la loi du talion, où c'est la loi de chacun. Et ça, on ne peut pas vivre ensemble de cette manière-là. Donc il faut consentir à une règle commune. C'est ce qu'on appelle la République. Res publica, la règle commune.
Alors, on est l'avantage avec les émissions en podcast, c'est qu'on peut largement déborder, on a tout notre temps. Je voulais rebondir sur ce qui se passe à Mayotte en ce moment. La proposition de Gérald Darmanin de supprimer le droit de sol là-bas. Il y a plusieurs sondages qui ont été réalisés en France, sur le territoire, et qui ont montré qu'une très grande majorité de Français, mais vraiment très grande majorité, sur ce thème, donc qui est un thème cher au RN, serait d'accord pour appliquer donc ce droit du sol sur notre territoire, sur le territoire français, donc en métropole.
Mmh. Oui, enfin,
c'est bien le problème.
Je ne suis pas surpris par ces positions parce que c'est quand on ne connaît pas
l'étranger coupable.
Non, quand on ne connaît pas la situation directement ou quand on a une projection de cette situation, on a des réflexes de peur et de se dire voilà.
Et de se dire voilà. Que l'étranger c'est le coupable
et qu'on n'arrête pas de répéter à longueur d'antenne, c'est la submersion.
Mais inversement. La submersion. C'est pas parce que ce sujet de droit est un vrai sujet, un sujet profond, qu'il n'y a pas un problème à Mayotte.
Ah oui, bien sûr.
Et que l'erreur à Mayotte, elle vient de la décision de Nicolas Sarkozy d'en avoir fait le 101e département français.
Absolument.
En plein milieu de l'océan Indien, avec des pays, des micro-îles autour qui sont dans une pauvreté.
Les Comores, bien sûr.
Une pauvreté crasse.
Les Comores qui ont refusé
inhumaine.
D'ailleurs donc, faire partie de la France à une époque.
On a, je crois, aux alentours de 300 000 personnes habitant légalement à Mayotte. Il y a 500 000 ou 600 000 habitants, donc avec des phénomènes de pauvreté extrême, etc. Donc, à un moment, il faut se mettre à la place, dès lors qu'on a considéré que c'est un département français, pas avec un statut spécial, un département français. Certes, outre-mer, mais un département français. C'est compliqué de laisser aussi en dérive complète. Cette situation.
Ne secoue pas trop le micro parce que tu es en train de te déconnecter. Il est très énervé.
D'extrême violence. Non, je pense aux Maoré. Vous imaginez risquer d'être coupé en deux chaque matin quand vous allez à l'école.
Donc
la réponse aujourd'hui, c'est de dire parce que beaucoup des îles voisines, des gens qui viennent des îles voisines, viennent là pour naître en France selon le principe du droit du sol et deviennent français au bout de quelques temps. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet spécifique.
Sauf
spécifique. Évidemment.
Là où ça pose problème.
Les ultra-gauchistes. Je regarde pas.
Il me montre.
Non mais.
Il me regarde pas.
Les extra
Est-ce qu'il y a des caméras là ?
Excuse-moi Jean-Claude, mais dans la tablette que nous sommes, tu es vraiment celui qui est le plus
proche. Plus à gauche,
mais tu ne l'es pas.
C'est le seul qui a un pull rose en plus.
On en revient toujours, c'est un peu le même discours. C'est-à-dire, on en revient au grand principe, comprenez, c'est contre les valeurs républicaines. Mais enfin, il faut accepter aussi la différenciation territoriale.
Non, ouais. Mais moi je ne suis pas contre.
Il faut
contre.
Accepter.
On
l'accepte en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que le corps électoral néo-calédonien n'est pas le même, n'est pas conçu de la même manière qu'en métropole. Accepter cette idée.
Ah, vas-y.
Non, d'accord. il faut prendre le problème spécifique. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un vrai problème. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas leur redonner la possibilité d'être autonome et de...
Non.
Voilà, est-ce qu'il ne faut pas, aussi avoir une position autre? Non, mais il faut peut-être.
Tu peux pas obliger les gens à avoir notre statut que ce qu'ils souhaitent.
Les
80% pour le statut de départemental.
Les indépendantistes de Mayotte.
C'est pas,
après
c'est pas les habitants de Mayotte.
Les indépendantistes corse.
Ce que je veux dire, c'est que la réaction.
J'aurais réclamé exactement l'inverse.
La réaction de la droite. Bon, le Rassemblement National, on ne
regarde pas quand tu parles à droite.
Moi non plus.
Oui, quand on savait qu'ils allaient réagir comme ça, qu'ils allaient demander le droit du sol pour toute la France, on savait qu'ils allaient le faire. Bah c'est oui. Un boulevard pour eux.
Bah oui.
Par contre, ce qui est quand même surprenant, c'est que Ciotti fait la même demande. C'est quand même encore, je considère que c'est une droite républicaine.
Non.
C'est plus une droite républicaine.
Mais non, c'est pas ça. C'est que Ciotti, il s'est trompé de parti.
Mais putain.
Ça fait longtemps qu'on le dit.
Il court sans arrêt après le Rassemblement National. Et c'est pas pour.
Il va le rattraper. Ouais. Il va le rattraper. T'inquiète pas.
Non, mais
t'inquiète
pas. Et alors, ça a mis en colère d'ailleurs les élus de Mayotte. Ouais. Qui était l'autre jour, c'était une macroniste, je crois, qui était sur un plateau, qui s'est mis en colère, qui a pété un câble, parce qu'elle a dit c'est à cause de vous que ça va capoter le système. Puisque.
Écoutez, dans tous les cas, ça va c'est capoter. Une annonce de Gérald Darmanin. Il va falloir quand même une loi, il va falloir qu'elle soit votée en termes identiques. Voilà, il est fort probable.
Un congrès.
On a avant cela l'IVG, on a la situation de la Nouvelle-Calédonie. voilà, donc je pense qu'il y a une volonté d'apaisement par des mots,
voilà.
Mais on n'est pas encore
au.